Nous, déjà, ça fait plusieurs fois qu'on soulève un problème de cet ordre. Je vais m'expliquer plus clairement. Ça fait plusieurs fois qu'on remarque dans soit de la communication, là je parle des campagnes publicitaires, par exemple, de la sécurité routière, où on nous disait quand même qu'il valait mieux être mort que handicapé. Je résume, mais c'était quand même très, très clair, correct comme ça. Il y a eu aussi des succès, on va dire, culturels. Enfin, on parle par exemple d'un bouquin qui s'appelle, en anglais, c'était Me Before You, et en français, Avant toi, où un jeune trader de Londres devenait tétraplégique à la suite d'un accident et qui finalement, malgré le fait qu'il ait tout ce dont il pourrait avoir besoin, tant en termes d'argent, d'aménagement, que d'aide humaine, etc., et même de l'amour, préférait se tuer parce que handicapé. Parce que récemment, vraiment, on est toujours dedans, le Covid, on nous a quand même bien expliqué qu'on laissait mourir les vieux parce que, bah, ils étaient vieux, et aussi parce que les handicapés, parce qu'ils étaient handicapés, et qu'on soignait les autres. Donc, mis ça en contexte, cette loi qui, en plus, a fait suite à une espèce de concertation publique où on s'est aperçu que finalement dans le public, il n'y avait pas les représentants des personnes handicapées ou malades chroniques, a priori les plus concernées par le sujet. Donc voilà, ça c'est le contexte. Et donc effectivement, mis bout à bout, on n'est pas réactionnaire et on n'est pas pour cette loi. Voilà.
C'est des raisons qu'on entend. Au sens comprendre, oui.
Oui, on a eu il n'y a pas longtemps un appel justement d'une personne de gauche qui a écrit pourquoi le projet fin de vie, le militantisme pour l'euthanasie n'était pas forcément de gauche et qui a elle aussi ce problème, c'est qu'on part du principe qu'elle est catho, tradie de droite et elle a du mal à se faire entendre parmi ses camarades et militants de gauche. Et c'est vrai que c'est vraiment la réplique qui vient tout de suite aux lèvres des gens quand on critique ce projet. Et ils sont bien embêtés de découvrir que nous ne sommes pas de droite et nous ne sommes pas là pour pousser un projet religieux.
J'imagine on parle du même texte là, de l'euthanasie n'est pas de gauche, ou enfin,
Oui,
qui a pas mal
oui.
tourné là.
Alors, concernant le projet de loi de Macron, pour l'instant, il n'est pas rédigé de façon sérieuse, officielle. C'est-à-dire qu'il fait des annonces. Et à tel point que parfois, j'ai du mal à savoir de quoi on parle parce que les gens n'ont pas tous lu les mêmes articles ou n'ont pas entendu le même discours. Et en fait, il n'est pas forcément cohérent d'un discours à l'autre. Donc pour l'instant, vraiment, il brasse de l'air. Il a décidé de lancer le sujet pour que les gens se jettent dessus. Et tout le monde donne son avis sur son projet de loi. Il n'y a pas de projet de loi actuellement. C'est-à-dire qu'un jour, il va te dire c'est pour des gens condamnés à court terme uniquement. Le lendemain, c'est court et moyen terme. Ça ne veut rien dire, moyen terme. Condamné à moyen terme, personne ne sait ce que ça veut dire. Un médecin ne peut pas te donner une liste de patients avec une durée là-dessus. Et donc, pour l'instant, c'est des annonces et rien que dans le discours qu'il veut rassurant, il y a déjà pas mal de problèmes. Par exemple, il n'arrive pas à définir ce qu'il considère comme de l'acharnement thérapeutique, qui n'est pas un terme à employer à la légère, c'est un terme qui est utilisé dans les lois existantes, Leonetti et Kouchner. L'acharnement thérapeutique, c'est illégal en France. Et la raison pour laquelle on peut faire fonctionner son droit de ne pas subir de l'acharnement thérapeutique, c'est via les soins palliatifs. Or là, on est à trois présidents d'affilée, il me semble, Macron, Sarkozy, Hollande, qui définancent l'hôpital et qui poussent et poussent et poussent pour la tarification à l'acte. Tarification à l'acte est un système de rémunération des hôpitaux qui est très efficace quand il s'agit de consultations rapides, de soins à court terme. Par exemple, voilà, j'ai une grippe, on me soigne, hop, la grippe est soignée, et après, j'ai plus rien. Ça, ça marche. En revanche, la tarification à l'acte, elle pénalise les hôpitaux qui s'occupent de malades chroniques, qui s'occupent de soins palliatifs, qui s'occupent de malades sur le long terme et qui prennent des patients compliqués, par exemple, parce qu'ils ont une maladie qui est peu étudiée et pour lesquelles on est encore à essayer de trouver une solution. On essaye et ça prend du temps. Donc, on a à la fois juste de moins en moins d'hôpitaux physiquement parlant, avec des ailes qui ferment, avec des chambres qui ferment, moins de personnel en forme, parce que le turnover est immense dans les hôpitaux, avec des arrêts maladie qui sont devenus une banalité, hein, l'arrêt maladie pour burn-out ou pour une autre maladie liée au stress. Et donc, d'une main, on a un gouvernement qui va d'une main nous retirer tous les outils qui permettent d'être soigné sur le long terme, d'éviter la souffrance inutile, de s'assurer qu'on a une fin de vie digne. Et de l'autre main, il pousse pour accélérer le processus d'accès à l'euthanasie.
Est-ce que on a dans d'autres pays des lois un peu semblables qui auraient pu être promulguées? Et puis, est-ce qu'on a un recul sur ce qui se passe dans ces pays-là?
Alors oui, on a le Canada et nous sommes en contact avec l'association. Donc ils sont bilingues, hein, vu que c'est canadien. Donc c'est soit en français toujours vivant, soit en anglais not dead yet, qui sont très critiques sur le MED, donc le MED ou AMM en français, c'est le dispositif de mort assistée. Dans un premier temps, il a été mis en place avec des arguments assez proches de ceux d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est pour des gens qui vont bientôt mourir, qui sont à l'agonie, qui souffrent, condamnés à court terme, etc. La loi est passée quand même, et... depuis qu'elle a passé, il y a fréquemment des amendements qui élargissent le champ des personnes qui peuvent avoir recours au MED. Et récemment, ils ont réussi à passer un amendement qui permet de donner la mort assistée à des personnes institutionnalisées en psychiatrie. Il y a eu également un cas, pour l'instant un seul cas connu, où une personne demandait le MED non pas en raison de problèmes de santé, mais parce qu'elle était très pauvre, qu'elle se retrouvait SDF, qu'elle n'avait accès à rien. Et bien, ça faisait bien longtemps qu'elle n'était plus soignée, et elle ne pouvait pas se payer des soins. Et le MED lui a été accordé. Concernant l'Europe, on nous parle beaucoup de la Belgique et de la Suisse, comme si c'était des super bons exemples. En Belgique, il y a une jeune femme qui a été victime de viol, qui a développé un syndrome de stress post-traumatique, qui a demandé le suicide assisté parce qu'elle ne supportait plus sa vie avec le syndrome post-traumatique. Donc, on n'est pas du tout dans le cadre super restreint qui est promis actuellement.
Le problème de ce cadre, c'est... par exemple, on nous parle de souffrance insupportable, etc. Bon, outre le fait, comme l'a dit Gwen, d'accès aux soins, les centres antidouleurs ont des délais d'attente de l'ordre de 6 mois à 1 an, hein, quand même. Et quand on arrive à...
Deux ans.
Bon, alors du coup, outre ça, il y a aussi comment juger ce qui est insupportable. Il existe des études, par exemple, de choses que les gens n'imaginent pas pouvoir supporter. Donc, ils n'imaginent pas pouvoir supporter, ne pas pouvoir se lever de leur lit, ne pas pouvoir respirer sans machine. Voilà. Et bon, quand on met tout ça bout à bout, et qu'en fait, en France, et partout dans le monde, on est nombreux, je dis « on » parce que du coup je suis concernée, on est nombreux à vivre ces choses-là que les gens pensent insupportables. Et pour autant, « on », toujours, n'a pas tous envie de se tuer, quoi. Voire aucun, mais bon. Et du coup, c'est le côté « qu'est-ce qu'on appelle souffrance insupportable? Déjà, il y a souffrance et souffrance, il y a douleur et souffrance, on va dire, plus mentale, psychique. Et puis, il y a aussi qu'est-ce que la société nous renvoie. C'est-à-dire que, effectivement, si on entend à longueur de journée que vaut mieux être mort que handicapé, que si j'arrive plus à manger, je vais me tuer, que tout ça, ben, à un moment, les gens, ils l'intériorisent. Et est-ce vraiment ça qu'on veut, que les gens se tuent alors qu'on peut leur proposer des solutions qui font qu'ils mènent leur vie correctement? Donc nous, au CLE, on défend la vie autonome, mais la vie autonome, elle est quand même très, très précaire en France. On a énormément de mal à obtenir nos droits en termes d'heures d'aide humaine, nos droits en termes de ressources. Là, ils viennent d'annoncer que l'allocation adulte handicapé allait être valorisée. Cool! On est toujours en dessous du seuil de pauvreté. C'est impensable que se dire que c'est de la maltraitance, en fait. Donc, il y a récemment un documentaire là, sur la maltraitance en institution. Donc, il y a énormément de gens qui vivent en institution. Voilà, la France est maltraitante envers les personnes handicapées et malades chroniques. Nous, on dit, changeons ça avant d'imaginer quoi que ce soit d'autre.
Oui, surtout que la France se démarque par son recours à l'institutionnalisation, que ce soit pour les jeunes enfants en âge scolarisé, pour les adultes ou pour les personnes âgées. L'ONU considère que la France ne respecte pas ses recommandations concernant l'accès à l'autonomie des personnes handicapées, quel que soit leur âge, parce qu'on va systématiquement passer par des institutions. IME pour les plus jeunes, EHPAD pour les plus âgés. Entre les deux, il y a des foyers dans lesquels on peut vivre, oui, mais on vit en ayant le quotidien. C'est comme si vous étiez éternellement coincé à l'internat du collège, avec des gens sur votre dos qui vont décider ce que vous mangez, qui vont décider qui vous fréquentez, qui vont décider de tout à votre place. Le budget, gérer le budget, etc. On ne sait pas quoi faire des personnes handicapées en dehors d'une institution. Est-ce que demande de CLE, c'est la vie en autonomie, et ça ne peut pas. Le CLE se démarque de certaines associations comme l'Association des paralysés de France, parce que cet asso et d'autres sont des associations gestionnaires qui sont en conflit d'intérêts, car elles se financent, reçoivent des salaires, reçoivent des moyens, parce qu'elles gèrent les institutions. Et nous nous demandons comment des personnes handicapées peuvent trouver ça normal de elles-mêmes vivre en autonomie, puis jeter des camarades sous le bus pour vivre en institution toute leur vie, et trouver ça normal.
Merci. Dans ce que vous avez dit, il y a un truc qui me marque à titre personnel, c'est cette évocation du fait que si on s'habitue à cette idée que finalement la vie des personnes concernées, elle n'est pas intéressante, et ben du coup on préfère l'abréger. Ça fait vraiment écho à ce que ma fille vit en ce moment, elle qui est plus en capacité d'exprimer au quotidien si elle prend plaisir à ce qu'elle fait ou pas, même si on détecte quand on l'accompagne des indices qui laissent qui permettent de le comprendre. Et j'imagine très bien, comme je partage pas les mêmes convictions que sa maman, la manière dont cette dernière elle pourrait interpréter ce texte-là pour prendre des décisions contre la volonté de notre fille, quoi. Voilà. Bref. Donc, ça résonne violemment, en fait.
Ouais. Alors actuellement, pour les mineurs, pour tout ce qui existe, pour tout ce qui est légal en 2024 en France actuellement, pour les mineurs, les soins palliatifs passent par les parents, ce qui peut être compliqué pour les ados qui s'expriment et qui s'expriment fort et qui ne sont pas tout à fait du même avis que leurs parents parfois. Jusqu'à 18 ans, on est obligé de passer par les parents. Et ça, c'est pour les soins palliatifs et la fin de vie. Ça veut dire, entre autres, qu'est-ce que je vais avoir pour la douleur, où est-ce que je vais vivre, où est-ce que je vais potentiellement mourir, est-ce que je serai à l'hôpital ou est-ce que je serai chez moi ou dans un foyer ou autre, est-ce que j'entre dans un service palliatif ou est-ce que je reste dans mon ancien service, parce qu'on peut aussi recevoir des soins palliatifs dans un service de pédiatrie, d'oncologie, de traumato, etc. C'est pas juste palliatif d'un côté, il y a des unités mobiles, il y a des personnes qui se déplacent, heureusement. En fait, je cherchais mon cahier tout à l'heure, parce que je voulais vous montrer un chiffre que je trouve intéressant. Parmi des patients hospitalisés à Jeanne Courmier, ils ont étudié 2157 patients qui ont, à un moment, durant leurs soins, demandé à ce qu'on leur donne intentionnellement la mort, parce que, généralement, à cause de la souffrance. Parmi ces 2157 patients, seulement 4 ont demandé la mort plusieurs fois, donc plus d'une fois, et seulement 55 ont maintenu leur souhait jusqu'au bout. Donc 55 sur 2157. La demande peut être passagère. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réelle souffrance, ça veut juste dire que la personne ne voit pas comment elle peut continuer ainsi. Parce que quand on est dans des souffrances à 9, à 10 sur 10, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de... C'est un stade de douleur où tu ne peux pas t'entendre penser, où tu as parfois du mal à juste parler. Et j'ai peur que les personnes décisionnaires sur la fin de vie soient un peu prédatrices, parce qu'il y a ce côté, on est en face de personnes en grande souffrance, il y a le manque de moyens, et je ne vois pas comment, même si ce n'est pas l'intention, même si ce n'est pas ce qui est écrit dans la loi, la réalité du terrain fait qu'actuellement, toute proposition de suicide assisté ou d'euthanasie se fera avec une forme de chantage. Car on a des patients qui n'ont pas accès à tous les soins dont ils ont besoin, qui n'ont pas accès à leurs soins dans un délai court. Et quand on a un cancer métastasé, des tumeurs au cerveau, quand on a des gens qui sont en douleur, qui ont besoin de morphine et qui commencent à s'accoutumer à la morphine, c'est-à-dire qu'elle fait moins effet qu'avant, comment ne pas y voir un espèce de chantage ? C'est soit j'ai accès à la fin de vie, ça peut être fait là tout de suite, parce que ça ne coûte pas très cher. Soit j'ai accès à des soins palliatifs, mais attendez votre tour, c'est dans 8 mois. Non, tu vas pas attendre 8 mois quand tu es quand tu es déjà hospitalisé depuis des mois, que tu n'as pas accès à une hospitalisation à domicile, que tu ne vois pas tes proches, que tu ne vois personne, que ta vie, c'est des murs blancs et... des bruits de machines, etc. Je vois pas à quel moment on peut imaginer ça comme un réel choix. C'est pas un choix, c'est un chantage. C'est on te torture ou on te tue. Qu'est-ce que tu choisis ? Alors, je voulais ajouter un truc sur la psychiatrie, parce que personnellement, avant d'être diagnostiquée avec un syndrome qui cause des douleurs dans tout mon corps, à chaque fois que je disais que j'avais mal aux articulations, on me répondait que c'était l'angoisse et le stress, tout ça. Donc, j'ai été envoyée chez des psychiatres qui ont décidé que j'étais dépressive, anxio-dépressive, bipolaire, tout ce que vous voudrez. En fait, j'avais besoin d'antalgiques et personne ne voulait m'en prescrire. Par contre, je recevais de l'homéopathie de la part de médecins, hein, bac plus 10, soi-disant. Enfin, il paraît que les patients sont bêtes parce qu'ils pensent que l'homéopathie, ça marche. Personnellement, j'ai toujours reçu de l'homéopathie par les médecins. Hein, c'est un truc qu'on me forçait à prendre. Donc, je n'avais pas accès à... un diagnostic ou à de la kiné ou à des antalgiques. Et il arrivait un moment où je suis devenue suicidaire. La dépression avait suffisamment poussé pour que je sois suicidaire. Et bizarrement, quand je suis allée dans un hôpital en disant que je voulais mourir, personne n'a trouvé ça légitime, vu que je n'étais pas visiblement handicapée. À l'époque, je n'utilisais pas d'aide pour marcher, j'arrivais à tenir debout. Ce que les gens ne remarquaient pas, c'est que dès que j'avais l'occasion, en fait, je m'appuyais contre les murs parce que je n'arrivais pas à tenir debout longtemps. Je m'asseyais dès que je pouvais, je prenais le bus, j'étais assise par terre dans le bus. C'était que des trucs comme ça. Je tenais avec des bouts de ficelle. Et là, j'ai été hospitalisée contre mon gré parce qu'il n'y avait pas de place dans la clinique qui était une clinique à laquelle je faisais confiance. Et je ne voulais pas aller à l'hôpital de mon secteur parce que j'étais au courant du désastre total qu'était leur organisation, leurs moyens. Et je savais qu'on finissait juste enfermé dans une pièce tout seul pendant 10 jours à rien faire. Et je ne voulais pas faire ça. Et on a refusé que je puisse juste prendre ma propre décision, faire ce qui est bon pour moi, rentrer chez moi, avoir le choix, ce qu'on appelle la dernière des libertés. Bizarrement, ça ne vaut pas pour les suicidaires. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'aujourd'hui, un psychiatre peut décider de t'hospitaliser contre ton gré, ce qu'on peut faire uniquement en psychiatrie. Car dans le reste de la médecine, même si c'est extrêmement dangereux pour toi de rentrer chez toi, tu signes une décharge qui dit « c'est bon, j'assume, si je meurs, c'est ma faute », et tu rentres chez toi. Il n'y a qu'en psychiatrie qu'on peut t'en empêcher, avec plusieurs moyens. Qu'est-ce qu'on va faire de ces patients-là, du coup, les gens comme moi qui voulaient mourir, on va y avoir droit ou pas? Et dans le cas où il n'y a pas droit, comment on peut continuer de justifier, d'enfermer les gens suicidaires contre leur gré? Et forcément, la réponse que je reçois à ça très souvent, c'est « oui, mais il y a une différence entre maladie psy et physique ». Pas vraiment. La majorité des personnes qui ont des problèmes psy sur le long terme ont des problèmes physiques. Ils se plaignent de douleurs, ils se plaignent de troubles de la digestion, énormément, énormément de troubles du sommeil. Pourquoi? Parce que simplement, si tu as des troubles du sommeil, tu ne vas pas rester bien dans ta tête très longtemps, parce que ça rend, ça affaiblit énormément les gens. Ça augmente tous les autres problèmes de santé que tu peux avoir. Et ce qui fait que la réalité du terrain, c'est qu'il n'y a pas psy d'un côté, physique de l'autre. Les patients en fin de vie, les patients en maladie chronique, les patients qui sont dans un service de palliatif ont tous des troubles psy. On ne peut pas séparer les deux. Donc, on ne pourra pas parler de cette loi sans remettre en question l'autorité de la psychiatrie.
Je pense qu'on peut aussi reparler un petit peu du texte qu'on a écrit sur le sujet. Et puis, c'est vrai qu'en conclusion, nous, on disait qu'à l'heure actuelle, vu l'état des établissements de santé, vu les difficultés d'accès à nos droits fondamentaux, etc., on est opposé à cette loi. Et on n'est pas les seuls, puisque quand même se sont exprimés pas mal de médecins plutôt concernés, hein, des oncologues, des médecins, voilà, qui ont dit qu'eux avaient suffisamment, entre guillemets, de matière dans les lois actuelles pour soulager et accompagner la fin de vie des patients, quoi. Donc, voilà. Déjà, premièrement, communiquons sur les lois actuelles, faisons en sorte que les personnes puissent, quand elles en ont la possibilité, établir leur directive anticipée, à savoir quel degré, entre guillemets, de réanimation elles souhaitent accepter ou pas. Et voilà, et dire clairement ce qu'elles ne veulent pas. Et parce que je pense qu'en France, on est quand même très, très peu à avoir fait cette démarche d'écrire ces directives anticipées. Et donc, là encore, ça repose la question de les sondages d'opinion, sont-ils faits auprès de gens concernés ou de gens qui ignorent totalement ce qui existe, quoi.
Ouais, donc, c'est très difficile de se projeter, de savoir ce que tu voudras après 3 ans à te battre contre un cancer. L'état dans lequel tu seras dans 3 ans, actuellement, il peut te faire peur, te catastropher, parce que tu n'as jamais vécu comme ça, tu n'imagines pas vivre comme ça. Les gens sont beaucoup plus résilients que ce qu'on imagine. Et en fait, il y a des gens qui vivent dans des conditions très, très dégradées et qui ne veulent pas toujours mourir pour l'instant. Et c'est pour ça que c'est important de faire savoir aux gens qu'ils ont des droits qui existent déjà, non seulement d'écrire des directives anticipées, de s'informer sur leurs droits, sur ce qu'est la sédation profonde, parce que quand on parle de sédation profonde, on ne parle pas juste de faire des siestes aux gens, on parle d'un niveau sédation où tu n'es plus conscient, parce qu'il n'y a plus aucun moyen de lutter contre ta douleur, donc on te fait perdre connaissance pour que tu ne souffres pas en attendant le moment où fatalement la maladie va te tuer. Et non seulement on peut écrire cette directive anticipée, mais on peut les modifier à tout moment, parce que s'il y a quelque chose que tu n'avais pas du tout prévu qui se passe, il faut que tu puisses les modifier, et désigner une personne de confiance, au cas où tu ne serais plus en mesure de t'exprimer, qui sait ce que tu veux et qui peut intervenir en ton nom.
Oui, c'est un point important à communiquer auprès des auditeurs et des auditrices à cette idée-là. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.
Ouais, merci pour votre temps.
Ben, merci à vous.
Merci à vous, c'était super.